À l'occasion des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole et dans le cadre de sa programmation scientifique et son cycle de conférences, le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire organisait le mercredi 9 mars une conférence sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Radio Ondaine vous invite à écouter le témoignage du général Dominique Delors, auteur du livre « Guerre au Rwanda, l'espoir brisé 1991-1994 », commandant de l'opération Norwa pendant la guerre civile rwandaise.
Bon, vous avez affaire à un des acteurs. Un des acteurs, au moins de la période avant le génocide. C'est une assez longue période, hein, de 90 au 7 avril 94. Donc, un des acteurs, bon, il avait 30 ans de moins. Hein, et donc, voilà, il avait pas tout juste 45 ans à peine. Et il était colonel. Et le Rwanda est apparu dans ma vie... d'officier des troupes de marine, déjà connaisseur d'un certain nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient dans des opérations et dans des séjours assez nombreux, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence. Enfin, je rentrais de Djibouti, où commençait d'ailleurs une crise, à un moment de l'effondrement, hein, 91, c'est l'effondrement dans un certain nombre de pays. Là, c'était le régime de Mengistu qui s'effondrait, l'Érythrée qui prenait son indépendance, des opérations qui débordaient sur Djibouti. Et puis, c'était évidemment la première guerre du Golfe, hein, dont les répercussions allaient jusqu'au Yémen, touchaient même Djibouti, avec les premiers attentats terroristes qui tuaient déjà des enfants français. Donc, c'était pas pour continuer. Donc, j'arrive à Paris, à l'état-major des armées, et je suis choisi pour être... une création de poste d'être conseiller Afrique du chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le numéro un des militaires, grosso modo, hein, donc l'amiral Langsad, lui-même étant venant de l'Élysée, où il était chef d'état-major particulier du président François Mitterrand, et qui venait de le nommer comme chef d'état-major des armées. Alors je vais revenir sur cette période, simplement pour dire que... évidemment, je vais ensuite poursuivre ma carrière d'officier général jusqu'en 2005. Et après, je dois dire que j'ai essayé de mettre à disposition d'un grand groupe civil, qui n'a rien à voir avec la défense, je vous rassure, un certain nombre de capacités. Et donc, pendant une grosse douzaine d'années, je vais encore sillonner le monde, ce qui me donnait une ouverture sur des espaces que je connaissais peu, depuis le Japon jusqu'à l'Argentine ou du Canada jusqu'à Istanbul. Ceci dit, le temps ayant passé, à partir de 2018, j'ai retrouvé un peu de temps personnel et j'ai commencé à raconter ce qui était important pour moi. D'abord, des premières opérations au Liban, au Tchad, comme jeune capitaine, au moment de la première intervention au Liban. C'était pas en 78, ça vous rappelle peut-être quelque chose, il y a longtemps. Et puis ensuite, au Tchad, on a intervenu un certain nombre de fois, mais là, c'était une intervention assez lourde. Et donc, j'avais une promesse à remplir, et donc, je l'ai remplie. Et ensuite, c'est posé, je passe un peu vite, un autre ouvrage, un troisième ouvrage, je me suis dit... Le Rwanda. Alors pourquoi le Rwanda ? Le Rwanda, ce que j'avais remarqué les années passant, c'est que les journalistes tout d'abord, les historiens ensuite, se focalisaient d'abord sur l'impensable, l'innommable, l'inacceptable, c'est-à-dire le génocide. Puis ensuite, comme nous l'a très bien expliqué notre cher professeur d'histoire, sur les conséquences en termes de mémoire, de vie intérieure. Et donc, c'était un effort important avec d'autres études majeures. Mais ce qui me paraissait manquer, c'était une analyse assez fine de ce qu'avait fait la France entre 90 et 94. D'autant plus que le peu de choses qui sortaient comportaient des propos qui n'étaient pas acceptables pour moi, c'est-à-dire une certaine confusion entre les actions militaires de la France et une aide supposée aux génocidaires, voire une complicité avec les génocidaires. Et donc, le dernier élément déclencheur, vous avez pour certains l'âge de le comprendre, ma petite fille aînée m'a posé directement la question, d'autant plus que je faisais partie du club des 22, que connaît très bien notre historien, repéré dans le bras de fer juridique entre Kagame et la justice rwandaise, et d'un côté, et l'État français et le juge Bruguière de l'autre. Donc j'ai dit que j'allais raconter ce que j'avais vécu en tant que conseiller Afrique. Et je le mets là parce que non pas pour faire de la mémoire pour ce livre que j'ai écrit l'an dernier, Guerre au Rwanda, l'espoir brisé, mais pour vous dire que j'ai voulu raconter tel que nous l'avions vécu, et plus particulièrement moi, tel que je l'avais vécu dans les différentes missions qui m'avaient été données. En effet, j'avais conservé un certain nombre de notes. Je suis encore de la génération où on prenait des notes. Nous avions appris ça de nos parents. Et on prenait des notes, on gardait des brouillons. Et j'avais gardé un certain nombre de choses. Des agendas. Et donc, ce qui m'avait permis ensuite d'être très précis dans le texte de mes mémoires, que Perrin a bien voulu faire paraître, et qui sont sortis avant le fameux rapport du professeur Duclair, qui est sorti à la fin mars l'année dernière, que j'ai rencontré d'ailleurs à deux reprises, et dont j'avais donné teneur, qui est très souvent cité dans ce énorme rapport. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se l'est procuré, mais c'est une masse importante, de 900 pages plus 300 en annexe, ça fait dans 1200 pages, donc très souvent cité dans ce document. Qu'est-ce que il est important, à mon avis, que je vous communique ? Sachant que moi, j'étais effectivement un acteur, donc je n'ai pas un décideur de la politique de la France, mais un acteur auprès de la première autorité militaire, qui était lui-même auprès du chef des armées. Donc, si vous voulez, le facteur d'atténuation entre François Mitterrand et moi-même ne représentait qu'une seule personne. Donc, je ne savais pas tout ce que François Mitterrand pouvait penser, mais je pouvais savoir quasiment tout de ce qu'il décidait. Sur ce point en particulier, sur ces dossiers, bien sûr, pas sur le reste. Ce qui est, ça, c'est une certaine proximité donc, qui me permettait d'avoir bien l'esprit de la mission souhaitée par notre autorité politique en tant que président légitimement élu et les faits recherchés sur le terrain. Deuxième élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le Rwanda, en 91, je ne dis pas que c'était le dernier souci de l'État français, en tout cas de l'État-major des armées, mais pas loin. Hein, je vous ai dit que nous avions à peine terminé la guerre du Golfe et que commençait une guerre qui est malheureusement revenue d'actualité, c'est qu'il y avait le feu dans les Balkans, pour reprendre le nom d'un grand classique. Feu dans les Balkans, et pas dans les Balkans aux limites de l'Union européenne, mais à l'intérieur, grosso modo, pas de l'Union européenne, mais disons entouré par des pays de l'Union européenne, dans les Balkans. Ce conflit va durer jusqu'en 2000, jusqu'à les dernières campagnes très importantes que nous devrons mener contre Milosevic pour qu'il lâche le Kosovo. Donc, si vous voulez, ça, c'est la préoccupation majeure. C'est au cœur de l'Europe. Ce n'est pas à 3 heures d'avion, c'est à 1h30 d'avion. Alors, évidemment, l'état du monde n'était pas le même. L'état du monde était dominé par les États-Unis d'Amérique, la grande puissance des années 90, la superpuissance, l'hyperpuissance. La loi romaine, la loi américaine, s'appliquait pratiquement partout dans le monde. Pas de contestation. Là où on pouvait contester, on pouvait se ramasser des missiles, des bombardements, ce qui a été le cas d'ailleurs, globalement, entre 90 et puis les débuts des années 2000. Et nous avions un message, tous, français, de gauche, aussi de droite, on avait le sentiment, et auquel nous croyons toujours, c'est que la démocratie est le meilleur des systèmes et qu'il est important que tout le monde le comprenne bien. Donc, nous avons raison d'ailleurs. C'est le meilleur système. Mais enfin, on s'en va s'apercevoir que dans le monde, tout le monde ne pense pas la même chose. Nous sommes donc dans cette préoccupation-là. Nous avons des gros problèmes au Cambodge, où vient de se terminer un génocide. Oui, les accords de Paris nous permettent d'imaginer ce que nous ne pensions pas possible, c'est-à-dire qu'une scène arrive à regrouper avec le prince Sihanouk, les royalistes, les républicains, les anciens Khmer Rouges à travers les communistes du moment, etc. Et tout ça, ça devait nous mettre en place d'une énorme mission des Nations Unies auquel nous allons participer. Il y avait aussi la Somalie, souvenez-vous, Kouchner avec son machin. Somalie avec le débarquement de force. Il y avait ce que nous suivions de manière plus indirecte, mais qui était très important au plan stratégique, ce qui se passait en Afrique du Sud. Les négociations qui devaient mettre fin à l'apartheid. Avec un futur président et un président qui vont ensemble recevoir le prix Nobel de la paix en 1993. Nous avions des problèmes à Djibouti, je l'ai déjà cité. Nous en avions au Togo. Nous en avions toujours au Tchad. Au Tchad, c'est endémique. Nous en avions en Mauritanie. Nous en avions avec les Marocains à qui on mettait encore. C'était la grande époque de l'ONU. On mettait des forces de l'ONU partout. Donc on en rajoutait, évidemment, aussi des observateurs, où on trouvait des Chinois et des Russes au fin fond du Sahara occidental, parlant remarquablement français, mesdames, messieurs. Remarquablement français. Quand je les ai rencontrés dans le désert, je me suis demandé, mais existe-t-il des Français, des officiers français capables de parler le chinois? Le russe, peut-être. Il y avait quand même quelques-uns qui avaient fait des études. Mais du chinois. Et le russe parlant un français comme vous et moi. Spetsnaz, pour ceux des spécialistes. Donc, si vous voulez, notre préoccupation. Le Rwanda. Le Rwanda, très bien présenté, c'est un pays francophone. Et donc, il fait partie de la francophonie. C'est pas une ancienne colonie française. C'est même pas une ancienne colonie belge. Puis dans cette colonie allemande. En juin 90, le président de la République réunit à la Baule des chefs d'État. Et il leur tient un discours, dont il faut à peu près se souvenir la teneur. Globalement, la France vous aidera si vous aidez à ce que votre pays aille vers un État de droit. Et notre effort sera d'autant plus marqué que vous irez vers le droit, c'est-à-dire le multipartisme, c'est-à-dire une justice indépendante, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme. Chemin qui était différent d'un pays à l'autre. Vous pensez bien qu'au Sénégal, c'était Abdou Diouf qui devait être président, on n'en était pas au même niveau qu'Abiramana au Rwanda. Chacun. Et il disait, la France vous aidera en fonction de ce que vous faites sur ce chemin. Nous sommes en juin 90. En septembre 90, il y a, tel que il vous a été dit tout à l'heure, cette première attaque armée venant d'Ouganda. Alors effectivement, le Front patriotique rwandais avance très vite, mais rencontre des grandes difficultés, avec une aide modérée des Belges et des Français, très modérée, sans engagement, mais en tout cas suffisante pour motiver un peu l'armée rwandaise pour arrêter la colonne qui avait pris la route directement du poste frontière en direction de Kigali. Pourquoi pas? Ça marche parfois, là ça n'a pas marché. Et ils ont été repoussés. Et le premier chef historique du FPR va mourir, Izegwa, dans cette affaire. Et c'est un Hutu qui va devenir le président du FPR ensuite, non pas Kagame, parce que tout le monde retient Kagame, à juste raison, parce que c'est l'homme fort. Kagame est à ce moment-là aux États-Unis d'Amérique. Il est major, pas encore général. Ça va vite après, hein, normal. Il est major, il est en stage aux États-Unis d'Amérique, qui forme des officiers ougandais, car c'est un officier de l'armée ougandaise. Ses parents sont d'origine rwandaise, bien sûr, Tutsi d'origine rwandaise, mais il est officier, un officier remarqué et remarquable, envoyé aux États-Unis, et il est rappelé par ses amis pour qu'il puisse prendre la tête de l'armée populaire rwandaise, c'est-à-dire le bras armé du parti politique. C'est en 80. Donc nous, les Français, le président Mitterrand, c'est d'ailleurs même pas raconté par moi, parce que c'est juste la préface, c'est comment le président Mitterrand a décidé. Il le décide, si j'ose dire, au moment où le président Mitterrand est allé en visite, parce que nous nous préparons à faire la guerre à Saddam Hussein. Là. Le président Mitterrand est à ce moment-là dans le golfe arabo-persique quand on lui annonce la première attaque du FPR. Et il va décider qu'on allait ne éviter qu'une capitale puisse être prise par une action armée venant des pays voisins et qu'on puisse changer comme ça, par un raid armé, un État francophone. Alors nous envoyons, vous voyez, c'est un peu, on ne fonctionne pas toujours comme les Russes, nous. Hein. Donc parfois, si vous voulez, dans le dialogue de la force, il y a beaucoup plus de subtilité que l'orgue de Staline. C'est plutôt un petit air de violon pour indiquer à notre adversaire que nous mettons un pion là, petit pion. Hein. C'est pas 1500 hommes, là on met 150 hommes, puis après 300 hommes. Sur place à Kigali, pour signifier que on est là pour protéger nos ressortissants. On a toujours des ressortissants, quand même. On est encore une puissance où on est nombreux. Puis en plus, tous les États européens nous demandent de les évacuer. Donc on a toujours beaucoup de monde. Donc on est à peu près sur notre coup. Et en même temps, message subliminal, on est là, n'y venez pas. C'est le dialogue. Quand on ne veut pas faire entrer des chars, on essaie de dialoguer avec des violons. Les violons, c'est un mélange de militaires et de diplomates. Ce message, il est compris. Mais très vite, bon, les mois passent, très vite, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est à peu près clair dans la carte qui vous est là, c'est que la résistance du FPR est surtout installée en Ouganda et a à peine grignoté les frontières du Nord. L'année suivante, parce que je serai amené à me rendre au Rwanda en 91, 92, 93, donc pendant toute cette période, j'aurai le temps d'observer la beauté du paysage, de rencontrer des Tutsis et des Hutus, un peu complexe d'ailleurs, parce que, si vous voulez, dans le cadre souvent manichéen qu'on nous présente, le chef de la diplomatie du futur gouvernemental, c'est un Tutsi, Boniface Ngulinzira, qui sera assassiné lui aussi le lendemain du 7 avril. Donc pendant cette période-là, qu'est-ce que l'on estime dès 91, d'ailleurs quand j'accompagne le chef d'état-major des armées à Kigali, en rencontrant les chefs politiques et militaires de ce pays, on voit très bien que ils ne seront pas capables d'éliminer leur rébellion. Et que leur rébellion, elle est installée en Ouganda. Et donc, il n'y a pas de solution militaire. Il n'y a pas de solution militaire où on pourrait, nous, apporter suffisamment d'un effet militaire pour casser une rébellion que l'on souhaiterait, que l'autorité politique souhaiterait qu'on casse. Il n'y a qu'une seule possibilité, la meilleure, c'est-à-dire la négociation. Il faut amener les deux parties à la négociation. Alors, quels sont les bras de levier de Mitterrand vis-à-vis du président rwandais? Eh bien, c'est de lui dire, vous voulez qu'on vous aide parce que vous êtes menacé. À ce moment-là, il faut que vous avanciez. Il faut que vous avanciez vers le multipartisme. Et il va avancer en 91, il va accepter le multipartisme. Il faut que vous acceptiez d'avoir un gouvernement dont le Premier ministre soit d'opposition. Mitterrand, il avait déjà eu l'habitude avec Chirac, vous me direz. Hein. Puis après, Balladur. Vous acceptiez. Et puis, troisième point, parce qu'il y a des élections, du coup, comme multipartisme, il y a des élections, il y a des partis gouvernementaux, certains qui soutiennent complètement le président, un acceptable, un extrémiste, enfin, surtout l'acceptable, qui est le plus fort, et puis il y a des partis modérés, d'opposition. Et donc, de ces élections, il est sorti un Premier ministre d'opposition. Donc on a au Rwanda, à partir de fin 91, de début 92, pardon, début 92, un gouvernement avec un Premier ministre d'opposition. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, à force de faire des trucs tellement schématiques, qu'on croit que il y avait une unité complète d'extrémistes en place à Kigali depuis le début. C'est faux. Et ce gouvernement d'opposition, enfin en tout cas où il y a bien sûr des ministères qui sont tenus, puisque c'était un gouvernement un peu d'union nationale, même si le Premier ministre est d'opposition, ce gouvernement va vers des négociations. On lui a un peu tordu le bras pour qu'il accepte des négociations. Ça va être le début de ce qu'on appelle les négociations d'Arusha. L'Arusha, c'est une ville en Tanzanie, au pied d'un volcan qui s'appelle Meru. Vous avez une superbe vue sur le Kilimandjaro. Je vous conseille d'y aller, si vous pouvez. Mais avec le prix de l'énergie, je pense qu'il faudra mieux que vous restiez à Saint-Étienne. Ces négociations d'Arusha, elles vont démarrer, mais vous savez, dans l'histoire, tout est une question de rapport de force. Quand on veut négocier, il faut se présenter dans un rapport de force qui soit le plus fort possible. Et donc, en 91, puis en 92, il y a des offensives, d'ailleurs c'est numéro 2 et numéro 3, du FPR pour améliorer ses positions sur le terrain. Ils veulent négocier en position le plus de force. Il faut vous imaginer que ce n'est pas la résistance en France contre l'occupant. C'est on a une rébellion armée qui est sur une frange le long de la frontière ougandaise. Tout le reste du pays, c'est super calme. Y compris, d'ailleurs, entre les populations. Par contre, c'est vrai, il y a une rébellion armée et de temps en temps, malheureusement, il y a ces incidents ethniques qui ne sont pas sans rappeler les massacres qui avaient eu lieu les décennies précédentes, parce que, évoqué déjà par mon prédécesseur, mais on pourrait le faire plus. Malheureusement, ce sont des peuples qui ont une histoire de massacre en commun. Donc en 92, on commence. Je suis amené à faire d'autres missions, notamment parce que le chef d'état-major des armées me renvoie sur le terrain, parce qu'il considère que j'ai, comme on dit pieusement, un peu de discernement pour aider à proposer un certain nombre de scénarios. Et finalement, c'est Mitterrand qui tranche. Ce que tranche Mitterrand, c'est qu'il ne veut pas d'engagement direct des soldats français. Une stratégie indirecte, avec une aide, avec des coopérants, avec des très bons spécialistes que maintenant on appelle les forces spéciales, pour former les meilleurs de ce qu'on pouvait trouver chez les Rwandais. Et puis, une petite force, qui est le pion que j'ai indiqué, qui dit « C'est nous qui tenons cette ville, vous ne la prendrez pas n'importe comment. » Petite. Et on discute. Alors, le hasard m'a fait jouer plusieurs rôles. Vous savez, c'est comme ces pièces de théâtre où le même acteur joue plusieurs pièces, donc je suis aussi accompagné des diplomates pour participer à un round des discussions à Arusha, pour rencontrer d'ailleurs le président de la délégation du FPR, qui était un Hutu, Pasteur Bizimungu, comme quoi, encadré par quatre Tutsis quand même, il faut être plus complet, qui auront des destins pas enviable du tout d'ailleurs dans la suite de leur carrière politique et diplomatique. L'idée est de l'amener à ce que, avec les Américains, parce que nous sommes en liaison permanente avec les Américains soutiennent le pays du Nord, c'est-à-dire l'Ouganda avec Museveni, ils le soutiennent. Nous ne sommes pas dans une querelle, c'est sorti dans des livres, dans des trucs, nous ne sommes pas dans une querelle contre les Américains. Ce que je disais, je résume parfois en disant les Américains sont nos alliés, ils ne sont pas pour autant nos amis partout en Afrique. Ils ne sont pas pour autant nos amis partout en Afrique. Et eux soutiennent clairement Museveni, et le préféré de Museveni, c'est l'homme fort du Front patriotique rwandais, Kagame. Et nous, nous essayons de sortir ce foutu Rwanda de cette crise que l'on sait potentiellement extrêmement dramatique. Je l'ai écrit, ça figure dans le rapport du Clerc. C'est un rapport qui est monté jusqu'à la présidence de la République dès juin 92, parce que le chef d'état-major rwandais me l'avait dit, donc je reprenais ses propos, que si on ne trouvait pas une issue politique, il y avait un risque de massacre généralisé dans le pays. Lui-même n'évoquant pas, d'ailleurs, le terme de génocide. Le terme de génocide va, ipso, dans sa réalité, apparaître que plus tard, et d'ailleurs dans la bouche d'une Américaine, qui parlera avec une certaine hypocrisie, que je ne qualifierai pas, d'acte de génocide. Parce que si on qualifiait de génocide, Bill Clinton aurait été obligé de faire plus, alors qu'il n'a rien fait du tout. Enfin, il n'a rien fait du tout au moment où le génocide s'est déclenché. Donc ce risque de massacre nous était connu. Je ne suis pas le seul à l'avoir annoncé. Bon. C'était plutôt de ceux qui criaient au feu et qui essayaient d'aider les pompiers. Hein. Parce que crier au feu, simplement crier au feu, ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux crier au feu quand on voit le feu qui déclenche et puis essayer d'aider les pompiers. C'est ce que j'essayais, à ma place, de faire, bien entendu. Et donc, en 92, on est là à pousser ces gens vers un partage du pouvoir, « sharing power ». Une notion qui n'est pas chez nous, parce que nous, on est plutôt un homme, une voix. C'est notre tradition républicaine, un homme, une voix. Le sharing power, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Sharing power, c'est on estime des poids politiques et on répartit les pouvoirs politiques en fonction de la force que l'on considère à tel ou tel groupe. Ça peut être une solution. Elle n'est pas tout à fait dans notre tradition. Mais disons qu'elle peut combler un vide lorsqu'il s'agit d'associer des volumes de tailles différentes. Donc nous avons accepté, la France, les diplomates, les gens comme moi, de jouer le jeu et d'amener les deux parties à partager le pouvoir. Et donc ça va être tout un travail de plusieurs mois qui se déroule à Arusha, toute l'année 92. Début 93, on a un blocage, parce qu'on a un blocage. C'est un peu technique tout ça, mais je suis obligé de quand même vous en parler, parce qu'on ne peut pas résumer d'un coup la fraude aide un gouvernement génocidaire. C'est ridicule, ça. Notre ligne de conduite en permanence a été d'aider les Rwandais à sortir de la crise, sans nous-mêmes nous impliquer directement dans l'action. Action militaire. Avec, j'étais bien placé, rajouter des quelques poids militaires. En 93, il y a une nouvelle offensive rwandaise, la numéro 4, la numéro 4, qui est une très grande offensive. Et là, vu l'urgence, c'est moi qui vais commander l'ensemble de l'opération Norwa, avec des renforts qui me seront envoyés sur décision du président de la République, par le chef d'état-major des armées. Grosso modo, là, l'armée rwandaise est dans les cordes, hein, complètement dans les cordes. Et grosso modo, soit on laisse faire, et dans ce cas-là, le gouvernement tombe. Et effectivement, il y a toujours en musique, on a le risque de massacre qui démarre, d'un côté et de l'autre. Sachant qu'en plus, le problème est compliqué par des centaines de milliers de déplacés qui ont quitté toute cette zone du Nord, toutes les populations que j'ai vues, moi, à la fois au sol et en hélicoptère, des gens qui couraient avec leurs enfants dans la main, etc., ou dans les bras. C'est un peu malheureusement, les images que vous pouvez voir en ce moment à la télévision. Et avec ces gens qui se regroupent sur des collines d'eucalyptus, sous des branchages, etc., dans des conditions innommables. Qui n'ont rien. Heureusement que les Ukrainiens sont mieux accueillis que là, les centaines de milliers de déplacés dans un pays qui n'était quand même pas un pays très développé. Même si maintenant il a fait beaucoup d'efforts, mais à l'époque, ce n'était pas un pays très développé. Ils se nourrissaient, ils étaient nombreux. D'ailleurs, ça subvenait aux besoins de la population, mais enfin, ce n'était pas un pays très riche. Et donc, il fallait rétablir un équilibre de force pour obliger les deux parties à revenir à table de négociation pour régler les derniers problèmes, notamment celle de la future armée rwandaise. Les exigences du FPR étaient très importantes. Ils voulaient qu'un soldat sur deux soit du Front patriotique rwandais et qu'aussi un officier sur deux. Alors pour eux, c'est qu'il y avait moins de force globalement. Globalement, ils intégraient toutes leurs unités. Par contre, l'armée gouvernementale était obligée de se séparer des deux tiers à peu près de leurs forces. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Mais là, si vous voulez, les Occidentaux, on n'est pas bons. Américains d'abord. Pourquoi je dis Américains d'abord ? Parce qu'ils sont au courant de tout, les Américains. Et ils ont la manette sur quoi ? Sur l'argent. Ils ont la main sur l'ONU. Ils ont à peu près la main sur tout. C'est eux qui financent 75% des opérations de maintien de la paix dans le monde à cette époque-là. 75%, rien que les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique. Tu dis vous dire que s'ils veulent plus de moyens, on met plus de moyens. S'ils veulent, on veut mettre moins de moyens, on met moins de moyens. Et donc, il y a un certain nombre de points qui ne vont pas être réglés. Dans cet accord qui est finalement signé en août 1993, qui pour nous, Français, est une satisfaction. Normalement, on va vers la sortie de la crise. Et même, on va vers la sortie tout court. Puisque nous sommes engagés, et c'est ce que nous allons faire, à quitter le Rwanda. Et les forces françaises de nos rois vont quitter en décembre 1993 le pays. Reste une poignée de coopérants et les gens de l'ambassade. Grosso modo, théoriquement, entre guillemets, nous, on peut dire on a amené les Rwandais à une sortie de crise. Et puis on passe le relais aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Alors, les Nations Unies, je ne suis pas là pour faire leur procès, mais je l'ai vécu, ça, quand même. Ben, on désigne un représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui est un diplomate camerounais, M. Boubou, et on désigne un général canadien qui va découvrir le Rwanda et l'Afrique. Évidemment, hein, c'est pas près des Grands Lacs. C'est pas les mêmes, en tout cas. Hein ? Vous en convenez. Et ce pauvre Dallaire, Roméo Dallaire, il va arriver là-bas et on lui donne une force. Tout de suite, il voit qu'il n'y a pas assez de monde. Il n'y avait pas besoin d'être Clausewitz, Joukov ou MacArthur pour voir ça. On lui donne une force qui est sous-dimensionnée. Il n'a pas, pour la spécialiste, le chapitre 7, en emploi, c'est-à-dire la capacité à utiliser de la force pour remplir la mission. Et on lui dit, maintenant, vous êtes l'organe qui va permettre la mise en place et de faciliter la liaison entre le FPR, les gouvernementaux. Vous savez, les gouvernementaux, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Et puis, en plus, vous avez ceux qui sont ultra contre. Parce que se développe à ce moment-là. Les extrémistes qui sont absolument contre les négociations d'Arusha et qui disent, on a vendu le Rwanda, on a donné tout ça à Kagame. Donc se crée à ce moment-là une polarisation. Et évidemment, ces gens-là, ils vont souvent voir dans les camps de déplacés. Vous savez, cette multitude de jeunes, comme il y a dans ces pays africains, il y a énormément de jeunes. Ils leur disent, regardez, vous êtes sous des guitounes, même pas des guitounes, des abris lamentables. Et c'est comme ça que les milices vont avoir ce recrutement de ces gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, vont devenir des barbares. Nous quittons. Alors, donc en 93, je retourne encore à New York, discuter avec mes amis américains. Vous avez compris que mes amis américains à certains endroits ne sont pas forcément même mes amis partout. Comme quoi, vous voyez, les discussions sont parfois difficiles. Donc, avec un diplomate, vous savez, faut pas croire dans l'administration française, on n'est pas clanique, nous non plus, hein. On peut travailler avec des diplomates, des hommes politiques. On peut rencontrer les gens d'en face. Je dis ça en souriant, mais pourquoi ? Parce que j'ai souvent en arrière-pensée ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se parle plus, eh bien, il y a les autres options qui s'ouvrent, c'est-à-dire la guerre. Donc nous nous retirons. En disant, bon, c'est l'ONU maintenant. Puis on a d'autres sujets de préoccupation à l'état-major des armées. Bon, maintenant, on boucle le truc et puis une crise chasse l'autre, comme on dit. On a d'autres sujets de préoccupation, notamment les Balkans qui nous prennent de plus en plus de monde. Il faut taper sur les Serbes, il ne faut pas taper sur un tel. Bon. Donc on a d'autres sujets de préoccupation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le 7 avril... Je me raconte aussi dans mon livre. J'étais au Maroc quand on me téléphone pour parler de coopération. Vous savez que c'est quand même parmi nos plus vieux amis, les Marocains. Bon, on parlait de coopération. Le téléphone sonne. Vous êtes au courant de quoi ? Cette nuit, l'avion du président Miramana vient d'être abattu. L'amiral, chef d'état-major, veut savoir votre réaction. Dites-lui que c'est la catastrophe. Tout se casse la figure. C'est clair. Il n'a pas dit autre chose. Dans ma tête, je ne pensais pas au génocide, moi. Qui peut penser à un génocide avant qu'il se produise ? Ah, j'ai posé plusieurs fois la question. Qui savait qu'il y aurait un génocide avant le génocide des Arméniens ? Quel journaliste qui a annoncé le génocide des Cambodgiens ? Les Juifs, peut-être qu'il y en a parmi vous, mais c'était, il y en a qui disaient « il va aller à massacrer tout le monde ». Il y a déjà des camps de concentration. Mais combien de Juifs n'y croyaient pas, eux-mêmes ? Mais comment peut-on imaginer l'impensable ? On pense massacre, oui, massacre, camp, je ne sais pas quoi, goulag, tout ce que vous voulez. Mais extermination, exterminer une population. Donc, catastrophe. Donc, enchaînement. Et moi, je croyais que Kagame allait cavaler, si j'ose dire, avec son armée et puisque nous n'étions plus là. Ça reste une grande interrogation, messieurs les historiens, il faudra noter ça, je le dis. Pourquoi Kagame n'a-t-il pas gagné plus vite ? Pourquoi ? Pourquoi les Américains ne sont-ils pas intervenus ? Nous, non, puisqu'on nous disait déjà qu'on était des bad guys. Et puis Balladur, qui venait d'être... qui était depuis un an en poste, évidemment... Lui, il disait que le truc de Mitterrand, il fallait qu'il s'en... il n'allait pas suivre tout. Donc, si on venait de quitter en décembre, on n'allait pas revenir en avril. Donc on revient vite fait pour récupérer nos ressortissants, et puis quelques autres, comme d'habitude. On a les bras larges, donc on emporte des Européens, des Africains, des Rwandais. On nous demande si on a fait un tri embarqué. On nous reproche parfois de ne pas avoir fait le tri avant d'embarquer, comme si c'était à nous de faire le tri. Je veux dire que le colonel qui était en place, que je connais bien, évidemment, il a embarqué les gens qu'on lui a dit, et voilà, et il a évité de faire un tri. Bon, après, il dit « Ah, il a embarqué ma main. » Bon. Et puis on s'en va. Et là, les massacres commencent. Et de massacre, on devient un génocide. Ça aurait duré une semaine. C'était un grand massacre. Ça dure 3 mois, c'est un génocide. Et qu'est-ce qui se passe pendant 3 mois ? La communauté internationale, mesdames, les hommes n'en avaient pas. Très clairement. Les hommes n'en avaient pas. La communauté internationale baisse le nez. Nous, en croyant qu'on est disqualifiés éthiquement, moralement, puisqu'on avait quand même... On voit tout notre schéma qui se casse la figure. Mais les autres, les Allemands, les Britanniques, les gens aux Nations Unies. Alors si petit à petit, au fur et à mesure des massacres, il y a quand même le secrétaire général qui commence à lever les bras. Et c'est à l'honneur de la France, ça malheureusement on ne le dit pas, que finalement, Juppé, Balladur, évidemment le président Mitterrand, dites, bon, ben, ça suffit maintenant. On va prendre la tête. La tête, quand on prend la tête, on prend même aussi tout le corps. Hein. Il n'y a que la queue, peut-être, ou il y a quelques autres. On prend la tête d'une opération turquoise, pour aller essayer d'arrêter cette affaire. C'est l'opération turquoise. Alors l'opération turquoise, c'est un peu la même chose. Il va y avoir des critiques. Moi, je dis que mes camarades, je n'ai pas participé à turquoise pour la bonne raison que l'amiral m'a dit, écoutez, n'y allez pas pour éviter que les autorités rwandaises se trompent sur le signal qu'on veut envoyer. Vous voyez que c'est précis ce que je vous dis. Vous n'irez pas pour éviter que les Rwandais se trompent. Puisque j'étais allé déjà plusieurs fois pour leur sauver la mise, s'ils me revoyaient, ils vont me dire, il arrive, donc on recommence la même chose, ils vont nous sauver la mise. Non, là c'était le gouvernement intérimaire, c'était des génocidaires, c'était hors de question. Dans l'avion du président Habyarimana, le chef d'état-major rwandais est mort. Je l'ai connu, il s'appelait Deogracias Nsabimala, ça ne s'invente pas, Deogracias. Ce n'était pas un extrémiste. Il ne bouffait pas du Tutsi tous les matins. C'était un type qui aimait bien son pays et qui essayait de faire le mieux possible. Il y avait évidemment des salopards, il y en a eu. Mais comme on dit souvent, et à juste titre, j'ai apprécié une partie de l'armée rwandaise, parce que la grande partie de l'armée rwandaise, elle faisait face au FPR. On ne peut pas à la fois dire que l'armée rwandaise a massacré et en même temps dire qu'elle était aussi capable de bloquer les troupes de Kagame pendant 3 mois et demi. J'eus préféré, je l'avoue, que Kagame gagnât beaucoup plus vite. C'est une interrogation. Pourquoi le président Museveni n'a pas aidé son protégé en envoyant quelques régiments? Il aurait une bonne raison. Le devoir d'ingérence n'est juridiquement pas recevable, mais il est moralement recevable. On a eu des théoriciens chez nous dans cette affaire-là. Voilà. Et donc, la catastrophe. Donc, je raconte le dernier chapitre que j'appelle « La chute ». Partie finale de l'attentat jusqu'à Turquoise, je raconte comment nous avons perçu ça et comment on est arrivé à la dernière résolution qui va permettre à la France d'intervenir dans le cadre de Turquoise pour une durée limitée de 2 mois. Et on passe la main. Avec le sentiment d'échec, finalement, dans in fine. D'échec, mais pas de déshonneur. C'est ça, là où, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu témoigner, c'est que on a échoué, mais on a essayé de bien faire. Oui, on a essayé de bien faire. C'est pour ça que le sous-titre, c'est l'espoir brisé, parce qu'on a espéré les faire sortir de leur crise. In fine, tout s'est cassé la figure. Je vous ai brossé sommairement comment on était arrivé là, bien sûr, c'est un raccourci, un véritable raccourci, mais en vous fixant un certain nombre d'idées, et pour vous, dans la réflexion, si vous la poursuivez, que vous regardiez d'un autre œil, l'idée de la France. On n'est pas, et d'ailleurs ici, au mémorial, je sais que vous continuez à honorer, justement, des résistants qui portaient une partie de l'honneur de la France, eh bien, dans l'esprit de ce que nous avons essayé de faire, de sortir les Rwandais de cette crise, je pense qu'on était dans un bon message de la France. Et nous ne sommes pas intervenus directement avec nos troupes. On les a soutenus, entraînés, on leur a donné l'équipement, c'est vrai. Mais à chaque fois, pas n'importe comment. On ne leur donnait pas la capacité à écraser l'autre. On voulait maintenir un rapport de force pour obliger les deux parties à discuter. Et ils ont discuté, et ils sont arrivés à un accord. Kagame a vous dire tout ce qu'il veut, le FPR a signé les accords comme le gouvernement de l'époque de Kigali. Alors maintenant, évidemment, dans la réécriture de l'histoire, c'est très mode depuis des siècles de réécrire l'histoire, on va atténuer cette période où, dans la guerre civile, il fallait à la fois combattre et négocier. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et moi, mon espérance, que je dis toujours, c'est que les historiens n'étouffent pas les réalités. N'étouffent pas les réalités. Le contenu idéologique qu'on peut avoir pour soi ne doit pas être une... ne doit pas imprégner l'idée directrice de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Je crois que là, ça, c'est une forme d'indépendance d'esprit. Et de même que le choix des critères pour observer une histoire doivent être suffisamment... Les critères doivent être suffisamment nombreux pour éviter d'avoir une vision trop politisée de l'histoire passée. Pourquoi ? Parce qu'après... on va influencer le présent et l'avenir. Voilà. Et puis, croyez-le-moi, la guerre, c'est dégueulasse. Donc, il faut être fort. Il faut être fort pour que l'autre n'ait pas envie de ne plus discuter avec vous. Il faut être fort pour que l'autre n'ait pas d'autre possibilité que de discuter avec vous. Et nous, les démocraties, si on est faibles, eh bien, quelqu'un qui n'est pas démocrate et qui est fort peut dire « ils sont faibles, ils ne veulent pas discuter avec moi, je vais employer un autre moyen ». Donc il faut à la fois discuter, mais être fort. Voilà.